Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode et j'arrête l'émission 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Binge Audio, 30 minutes pour faire le tour d'une série ou d'une tendance, en compagnie de la Dream Team des journalistes séries, de l'analyse de l'esprit critique, un peu de mauvaise foi, mais promis, garantie, sans spoiler.
Next one.
That's the last one.
Aujourd'hui, autour de la très grande et longue table d'un épisode des Jarrettes, Charlotte Bloom de Story Série sur OCS. Salut Charlotte.
Salut.
Et évidemment, il est là, rassurez-vous, il a juste légèrement changé de place, Pierre Langlais de Télérama. Salut Pierre.
Hello Renan.
Ça va, tu es bien loin
ouais,
du micro.
Ouais, ça va. Ouais, ça fait du bien d'être au bout de la table là.
Tu es loin. Cette semaine, on parle du retour inespéré et très attendu du comique américain le plus révéré de ces dernières années, alias Larry David. Quoi, vous ne connaissez pas Larry David ni sa série Curb Your Enthusiasm? Pas de panique, que vous soyez méga fan ou curieux, on a 30 minutes pour faire le tour de Larry et de son nombril. Son humour, son style, son influence, mais aussi une grande question, pourquoi la comédie aime-t-elle tant nous mettre mal à l'aise? Pourquoi les comiques aiment-ils autant se mettre en scène? Le stand-up et la comédie, est-ce que c'est vraiment pareil? Masters of None, Louis Bettersing, les beaux malaises, on fait le tour des égo trips et des égo rigolos.
Okay. What it is.
Come here, I need to talk to you.
What's going down, Larry?
Listen to this, all right? Oh. In the doctor's office earlier, there's a guy sitting there, a skinhead, okay? He looks at me and he says, what the fuck are you looking at, Jew boy?
What?
Fucking faggot.
What? What you do?
What I do?
Yeah, what you do?
I slunk out.
You slunk out?
I slunk out.
So you didn't do shit, and you punked out. That's what fuck happened, right?
Yeah, I punked out.
How'd that happen?
What was I gonna do? The guy could have killed me.
Next time a man called you a fucking faggot, you getting that ass, Larry. You know what I mean? You getting that ass, Larry. That's what the fuck you do.
What are you talking about?
You let the man slide today. You gotta immediately get in somebody's ass when that happens to you. You pull their asshole open, step into their asshole, close the door behind you. Take a spray paint can, right?
Uh-huh.
Larry was here. You spray paint, Larry was here, wash me, all that kind of shit.
Vous l'aurez compris, c'était un extrait de Curb Your Enthusiasm, mais pour commencer, honneur à l'actualité, avec donc le retour de Larry et son nombril en version française pour une 9e saison à partir du 1er octobre et diffusée en US plus 24 sur OCS. Cela fait 8 ans qu'on espérait son retour, mais justement, chers amis, est-ce que vous attendiez vraiment le retour de Larry David?
Oui et non. Oui, parce que c'est un des personnages, un des créateurs marquants de l'histoire récente de la télévision, des séries. Oui, parce que c'est un événement. Oui, parce qu'on a vu énormément de séries qui doivent beaucoup à cette série-là. On va en parler aujourd'hui, j'imagine. Et non, parce que j'ai jamais été un fan de Larry David. Et pourtant, tout ce que j'ai vu m'a fait beaucoup rire, mais m'a aussi mis dans une situation vraiment désagréable. Ça fait partie de son humour. On parlait aussi, j'imagine. Mais en fait, ça fait partie de ces séries dont je suis pas forcément fan, et pourtant je trouve des millions de raisons de trouver ça absolument génial, mais je crois que c'est la force de son humour aussi.
Charlotte?
Moi, c'est un peu comme tu dis, c'est que c'est pas une série qui me fait particulièrement rire. Par contre, c'est une série
On n'est pas dans la merde. Ça vous fait pas rire tous les deux.
Non, mais en fait, elle fait quelque chose que j'adore. Elle me met mal à l'aise, comme fait Ricky Gervais dans The Office, où tu regardes et tu fais mais sors de cette pièce, mais arrête de parler. Et en fait, moi, j'adore être mise mal à l'aise. Donc, je préfère être mise mal à l'aise plutôt qu'on me fasse rire. Donc, voilà.
Et si vous deviez, en quelques mots, définir donc cette série, c'est quoi? C'est le malaise? C'est vraiment ça qui définit Curb Your Enthusiasm?
C'est le malaise, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise humeur. Et au final, c'est l'humanité, quoi. L'humanité dans tout ce qu'on est et qu'on essaye de pas être en public.
C'est-à-dire que donc Larry David, ce serait un anti-modèle?
Ce serait un anti-modèle et ce serait finalement ce qu'il y a de plus proche de la réalité, je pense.
Pierre?
Ouais, c'est aussi... Oui, de la réalité ou plutôt de ce qu'on oserait faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on veut pas être ce type, mais en même temps, des fois, on aimerait bien être ce type. C'est-à-dire que ce qui est drôle dans son humour, c'est qu'il y a une espèce de unapologetical, je crois qu'on dit en anglais, c'est-à-dire le côté, vous êtes tous des cons Et en fait, je vais vous le dire. Mais alors, en même temps, je pense que vous êtes des chic types, mais au fond de moi, je pense que vous êtes vraiment tous des sales cons. Et il y a quelque chose de réjouissant là-dedans. Finalement, il y a quelque chose de ce plaisir qu'on aurait, voilà, quand on se met à la terrasse d'un café, on s'amuserait à se payer la tronche des gens qui passent devant nous dans la rue.
C'est mal, Pierre.
Et sauf que oui, sauf que là où c'est bien, c'est que celui qu'on prend le plus dans la tronche, c'est lui-même. Et c'est ça qui est intéressant dans l'autofiction et en particulier en comédie, c'est que il y a une sorte de méchanceté qui est, dont la première victime va être Larry David lui-même.
Pour ceux qui n'auraient jamais vu la série, qui auraient envie de la découvrir, comment on raconte, de quoi ça parle exactement? Parce que là, on parle d'un personnage, de Larry David, mais il joue lui-même et pas exactement lui-même. Comment on pourrait définir le système de cette série?
Il joue une espèce de forme de lui-même poussée. Au max, c'est assez marrant parce qu'en fait, ce qu'on ne disait pas beaucoup sur cette série, c'est que bon, il y a une espèce de bande de potes slash acteurs avec qui ils jouent, mais en fait, c'est pas vraiment, ils ne jouent pas la comédie, ils improvisent, c'est beaucoup d'improvisation. Et je cherchais l'autre fois des interviews qui parlaient de Curb, et Ted Danson, qui est un guest récurrent, disait en fait, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est venir le mettre en colère, et quand vraiment il pète un câble, ça y est, c'est bon, on peut tourner, c'est Larry David. Donc c'est une espèce de d'auto-moquerie. Il connaît ses défauts. Il y a une vidéo sur TMZ qui a beaucoup tourné, une vraie vidéo où il n'arrive pas à mettre son ticket de parking dans un truc et il devient fou pendant une demi-heure. Il insulte la machine, il va chercher la conductrice de derrière qui est là, mais c'est Larry David, et qui du coup a peur pour sa vie, quoi. C'est un vrai taré, ce mec. Et je pense que c'est une sorte de...
Ça donne très envie de la regarder, là. C'est plutôt une série inquiétante que tu nous décris.
Mais c'est une sorte d'autothérapie. Enfin, c'est un mec qui a pas peur de se regarder dans la glace, qui a pas peur de se ridiculiser et qui a pas peur d'embarquer toute sa bande de potes avec lui qui vont lui mettre sur la gueule en permanence.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était un unitaire, un téléfilm qui est passé sur HBO et qui avait vraiment, qui s'appelait Larry David 2. Curb Your Enthusiasm, et donc qui était vraiment un projet de mise en scène de ce type, alors qui est assez confidentiel en France, qui est déjà beaucoup plus connu aux États-Unis parce qu'il a co-créé Seinfeld notamment et que ça fait de lui une personnalité marquante. Mais c'est pas non plus, c'est pas Michael Jackson, quoi. C'est pas une méga star.
Il fait quand même le SNL, c'est quand même.
Il a fait le SNL, il a travaillé d'abord pour le SNL, mais brièvement.
Et là, il est revenu pour faire Bernie Sanders.
Il est revenu, etc. Donc maintenant, c'est un personnage connu. Donc il y a évidemment, il y avait cette espèce de travail d'auto-dérision dont les Américains, enfin que les Américains savent très bien faire, que les Français essayent de faire régulièrement, mais ils ont beaucoup plus de mal à le faire. On en parlera aussi, je crois. Désolé, je te.
Non, mais c'est très bien.
Je te fais le teaser. Il y a en fait une sorte de fictionnalisation progressive du personnage, et l'intérêt aussi de la série, c'est qu'il a le pied dans la réalité, le pied dans la fictionnalisation, le pied dans l'écriture et le pied dans l'improvisation. Et donc en fait, c'est une espèce de semi-improvisation sur un semi lui-même.
Oui, c'est une forme d'expérience. Chaque épisode est une sorte de tour de force, de tenir sur rien, parce qu'en fait,
avec des sujets quand même. Alors, c'est à la fois comme Seinfeld, il y a du non-sujet à tout bout de champ, mais il y a aussi quand même, c'est une série qui est parfois violemment politique.
Bien sûr.
En tout cas, qui prend des risques
de plus en plus au fur et à mesure des saisons.
Ouais, voilà, qui va oser s'amuser avec le conflit israélo-palestinien, avec des trucs que peu de séries quand même osent aborder, et notamment. Alors là, moi, je suis pas un grand spécialiste de la communauté juive aux États-Unis, etc. Mais en allant relire des interviews et des papiers pour préparer cette émission, il a été unanimement salué par les associations de représentation, etc., comme aussi quelqu'un qui avait une vraie réflexion de fond, peut-être brute, mais une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce que la communauté juive, et du coup, il y a quelque chose d'une réflexion de fond quand même sur son identité, sur l'identité de sa famille, etc., même si c'est, encore une fois, il faut le rappeler, de l'auto-parodie.
Mais est-ce que le contexte très tendu américain en ce moment va donner, à mon avis, une impulsion à cette nouvelle saison ou pas du tout?
J'espère.
Ouais, c'est ce que vous attendez?
Dans quel sens? Non, mais dans quel sens t'espères, en fait?
Bah, j'espère que... Alors, il faudrait pas que ce soit trop facile et que ça soit des boutades contre Trump, toutes les deux blagues. Mais peut-être qu'il pourra aller encore partir dans des longs délires et des longues discussions avec le personnage de Jeff Garling, notamment, sur le terrorisme, sur ce que Trump fait par rapport aux frontières, les Mexicains, tout ça, quoi.
Une sorte d'édito sur l'époque aussi, parce qu'il y a
beaucoup
ça.
Oui, mais de la provocation aussi, c'est ça qu'on aime chez... C'est que ce personnage-là va se mettre tellement dans des situations embarrassantes qu'il va aussi assumer plein de mauvaise foi, la défense d'idées puantes, quoi, ou juste parce qu'il sait qu'il s'est mis dans une situation impossible, plutôt que de faire merde, j'aurais jamais dû dire ça, j'ai dit une connerie, il va y aller, il va continuer, il va s'enfoncer. Et c'est ça aussi qui est très drôle et profondément gênant, et que ce genre de comédie peut amener, justement, et c'est pour ça que peut-être que l'état de la société américaine aujourd'hui et de la politique américaine lui offrira un moyen de pousser encore plus loin l'embarras, quoi.
Charlotte, t'as pas l'air totalement d'accord avec Pierre.
Non, je suis d'accord dans le sens où on trouve la libération là où on peut, en fait, là où on veut, n'est-ce pas? Et Larry David peut en être une. Après, elle peut en être une pour moi dans le sens où quand tu regardes cette série, t'as l'impression que c'est... ce qui se raconte dans cette série, c'est vraiment ce que tu peux raconter qu'à tes amis les plus proches qui ne te jugent pas. Et lui, il a un courage de fou, parce que même si on sait que c'est de la fiction et que c'est pas lui tel qu'il est, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de lui, et les gens qui le connaissent très bien disent, oui, enfin, quand il est en colère, Larry David, c'est un sombre connard, enfin, bah, comme nous, hein, en fait, finalement. Mais ce comportement que t'as là, tu l'as un
pas
peu
tout,
en
se, mais non, mais moi, je suis
en
colère. Non, mais c'est vrai qu'il met en image, et du coup, ça va vers le discours politique, du coup, ça va vers le politiquement incorrect, où il va passer devant un mec en chaise roulante parce qu'il a super envie d'aller aux toilettes et qu'il s'en fout que le mec soit en chaise roulante. Où il va se moquer de Michael J. Fox et de son Parkinson parce qu'il dit non, tu n'as pas Parkinson, tu as fait exprès de faire exploser mon coca. Il va dire des choses que soit on va penser en secret en ayant super honte, soit il va faire des blagues que nous on se dit mais si je fais cette blague je vais perdre tous mes amis en 5 minutes, c'est mort, elle est super bonne ma blague mais tant pis quoi, je me la garde. Et lui il est libérateur dans le sens où en fait, il est libérateur comme l'était Vic Mackey, d'une autre manière, en cassant la gueule à tous les mecs qui étaient dans The Shield, qui passaient sur son chemin, parce que nous, on n'ose pas.
Il était chaud, lui aussi, hein. C'est un point commun, peut-être.
Ah, attends, il a des cheveux sur le côté, Larry David. C'est pas la même chose.
Si on rentre dans le débat capillaire, c'est qu'on est vraiment au cœur de la série. Ouais. Est-ce que, il y a aussi une forme de politiquement incorrect, même si c'est un mot qui a pas beaucoup de sens? Est-ce que c'est ça qui fait le sel de la série? C'est qu'elle va là où les autres ne vont pas?
Ah, bah, elle va dans les pires recoins. C'est une série méchante. C'est une série méchante, c'est une série où on s'insulte, c'est une série où on va traiter de tous les sujets les plus tabous possibles et imaginables, mais même des fois avec tendresse. Enfin, je me souviens d'un épisode où il va voir une nana avec qui il est, il rencontre le gamin de la nana qui a 8 ans, qui est très visiblement... mais ouvertement et naïvement et joliment très intéressé par la mode et homosexuel qui s'ignore parce qu'il a 8 ans et que c'est un petit môme. Et Larry David le perçoit tout de suite et il est tellement normal, il en a tellement rien à foutre et les gens sont tellement qui sont avec lui qu'il lui offre une machine à coudre pour son anniversaire et la mère pète un câble. Et t'as envie de lui dire, mais quelque part, il y a quelque chose de politiquement incorrect, mais c'est la mère qui a un problème, c'est pas Larry David qui a un problème. Il arrive toujours, en allant trop loin ou en étant trop naïf ou en étant trop lui-même, à faire ce que l'être humain devrait ou pourrait faire.
C'est vrai qu'il y a un côté vieux bougon. Il y a une tendresse, en fait. Depuis tout à l'heure, on parle quand même du personnage comme d'un enfoiré de première et qui, à travers son enfoiritude, nous permet de...
Enfoiritude.
Absolument. C'est dans le dictionnaire,
tu peux vérifier. Très bien.
Va pouvoir désamorcer le politiquement incorrect. C'est-à-dire que quand c'est un sale type qui dit des horreurs... À la fois, on va dire, ah, t'as vu, ouais, le mec, ah, c'est drôle et tout. Et en même temps, on va dire, bon, en même temps, c'est un sale type, hein. Donc, oulala, il peut dire ce qu'il veut, comme c'est un sale type. Mais il y a quelque chose, finalement, de très touchant chez ce personnage-là aussi. Parce qu'on sent que il est lui-même un peu mal à l'aise. Et il est lui-même un peu de mauvaise foi, il le sait. Enfin, il y a quelque chose qui est, c'est ce qui est le cas, c'est ça dans le oui aussi, finalement. Mmh. C'est que, il y a une forme de rondeur du personnage, qui est très subtil, mais qui permet au final de rendre tout ça humain et touchant, et pas seulement violent, bête et méchant. Quoi.
Est-ce que c'est pas aussi une forme de névrose? On l'a beaucoup comparé à une époque à Woody Allen, en tout cas au premier Woody Allen. Est-ce
qu'il a tourné très...
Et effectivement, avec Anything Else, il a tourné dedans. Dans Whatever Works, pardon, le film dans lequel Larry David joue.
Dès les années 80, il a des petits rôles dans deux autres de ses films.
Est-ce que justement, on n'est pas passé avec Larry David à une autre forme de comédie névrosée? On avait celle de Woody Allen qui était plutôt sur le tourment amoureux. Et là, c'est la névrose, c'est le misanthrope, en fait, celui qui déteste tout le monde.
C'est la difficulté à vivre, j'allais dire en communauté, mais même pas, parce qu'avec une personne déjà, il est super mal à l'aise. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est extrêmement touchant, parce qu'au final, ce personnage toujours un peu rentre dedans et toujours sur la défensive, bah littéralement, il se défend. C'est quelqu'un qui est pas bien, quoi. C'est quelqu'un qui est mal à l'aise et qui a l'impression qu'on l'agresse et qui a l'impression qu'on l'aime pas et qui a l'impression qu'il est exclu. Alors, et du coup, il s'exclut lui-même. Mais c'est un peu la névrose de notre époque aussi, quoi. On est tous un peu comme ça et on le devient de plus en plus à cause des réseaux sociaux parce qu'on se sent jugé. C'est
je
un vieux con,
de toi
mais qui est un peu
Charlotte,
comme nous.
Je sens qu'un
ah non, moi les réseaux sociaux ne me touchent pas.
Il y a quelque chose de très intimiste dans cette série. C'est l'histoire d'un mec, en l'occurrence, en plus qui est vrai, qui existe vraiment, mais en même temps quelque chose d'universel. C'est peut-être, alors je j'enterre pas Woody Allen, hein, mais de plus moderne dans la façon dont c'est exprimé. Et il y a pas une gratuité du verbe et un côté fleuri et très Woody Allen, c'est très écrit. Là encore une fois, faut le répéter, c'est beaucoup improvisé.
Donc ça donne la sensation d'écriture quand même. Il y a quand même enfin.
Oui, parce qu'il a une équipe de mecs qui connaît par cœur, quoi. Voilà, ils se connaissent par cœur là-dedans et du coup, ça fonctionne. Mais il y a ce côté peut-être plus sincère et c'est pour ça que là où Woody Allen s'est ramassé quand il a voulu faire une série sur Amazon, peut-être que Larry David tient là l'occasion de dire qu'il est intemporel et qu'il y a eu 8 ans de pause, mais qu'il va encore une fois être complètement pertinent aujourd'hui.
Non, évidemment, vous aurez reconnu le générique de Louis, ils l'ont répété plusieurs fois. Le fils spirituel, en tout cas celui qu'on reconnaît comme le fils spirituel de Larry David. Alors avant de nous intéresser donc à cette nouvelle génération, on va faire, il y a un truc capillaire, Pierre, il y a un truc, tu veux nous parler de cheveux ce soir, c'est série
non,
cheveux.
Non, j'essaie d'être drôle, mais j'ai pas le talent de ni Larry David, ni
c'est
Louis
que tu as trop de cheveux, Pierre, c'est bon.
Et moi, je les garde pas pour moi, mes blagues, c'est ça le problème.
Donc. On va, avant de parler de cette nouvelle génération, on va parler un tout petit peu de ce que Larry David a fait avant, qui est une série majeure qui s'appelle Seinfeld, qui est une série majeure aux États-Unis. Est-ce qu'elle a le même impact en France? Est-ce que vraiment Seinfeld, ça, c'est aussi important que ça allait aux États-Unis, chez nous en France?
Voilà, quand même, l'étiquette culte, dans le sens culte, les gens qui l'ont vu l'adorent et beaucoup de gens s'en foutent quand même pas mal. Seinfeld, c'était quand même assez hermétique, hein.
Ouais.
Tu la regardes aujourd'hui parce qu'elle a une réputation qui fait que t'as pas trop le choix. Si tu vas passer pour un blaireau, faut quand même voir à peu près de quoi ça parle. Mais c'est, ah, je sais que ça les énerve beaucoup, Larry David et Jerry Seinfeld, que ça ait, ce soit à ce point-là repris. C'est une série qui, sur le rien, the show but nothing.
Ouais, bon, en fait, ils l'ont dit,
puis ouais. Après ils ont dit non, c'est pas vraiment ça. En fait, on voulait expliquer comment ça marche, un mec, un comédien de stand-up, où est-ce qu'il trouve ses idées. Bon, bref, ils ont regretté leur slogan, mais n'empêche que leur slogan, c'est vraiment ça, quoi. C'est juste quatre personnes. En plus, il n'y a pas ce côté, comme dans les comédies, c'est comme dans Friends où t'as l'impression de te faire des potes en 3 secondes. Là, vraiment, c'est 4 personnes qui ne veulent pas de toi. C'est non, mais tu vois, c'est une bande fermée. Tu les vois, ces gens-là, dans les bars ou aux anniversaires, tu sens que c'est pas la peine, quoi. Ils se font marrer entre eux, ils se suffisent.
C'est sûr que ça tourne pas en boucle sur toutes les chaînes de la TNT comme Friends. C'est une série qui est plus difficile d'accès, alors qui est instantanément drôle, c'est-à-dire que les dialogues le sont.
Mais en anglais, pas en français.
En anglais, oui. Alors j'ai jamais vu la VF. La différence de Friends où j'ai vu la VF, qui du coup a un côté un peu plus austère et un peu plus difficile d'accès parce qu'il y a effectivement cette sensation de d'avoir des personnages un peu plus désagréables, un peu moins sympatoches. Même physiquement, ils sont plus partis. Ils ont voilà, c'est pas, on est beaucoup moins dans la série grand public et pourtant Dieu sait que Seinfeld aux États-Unis, c'est un des gros succès. Mais peut-être que Seinfeld était plus risqué que les sitcoms, les autres sitcoms des années 90.
Et le personnage de George dans Seinfeld, est-ce que c'était pas déjà celui que Larry David va jouer dans Curb Your Enthusiasm?
Inspiré de Larry David, si
alors,
je dis pas
de bêtises. Alors,
commentaire
capillaire peut-être pour commencer.
Oui, Pierre. C'est vrai.
Un commentaire Jacques Dessange, voilà. J'en y va.
Oui, alors après, c'est pas la même, hein. C'est la version ronde et la version tige, hein, parce que Constanza, il est plutôt cubique, alors que Larry David, c'est une grande tige. Si j'en crois les textes que je suis allé relire, dont une source infaillible, Wikipédia, Constanza est inspiré par Larry David lui-même. Donc il y a un lien, et Kramer par l'ancien voisin de Larry David, donc il y a quand même du vécu là-dedans. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que Seinfeld n'est pas un préquel de Curb Your Enthusiasm, mais c'est vrai qu'on retrouve des choses en commun dans les deux séries, quoi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu daté aujourd'hui dans Seinfeld? Est-ce que aujourd'hui on peut vraiment
les vestes, essentiellement les vestes.
donc on est passé du capillaire aux vêtements. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu daté justement dans Seinfeld? Est-ce que, et là c'est vraiment un grand débat qui définit des gens. Est-ce que vous êtes plutôt Team Friends ou Team Seinfeld?
Friends, désolé.
Bah, Team Friends, mais ne serait-ce que pour le fait de se sentir bienvenu en fait. Et puis
mais c'était vraiment deux comiques très différents, deux manières d'appréhender la sitcom et la comédie. Un courant Larry David Seinfeld et puis un courant David Crane, Martha Kaufman sur la sitcom joyeuse, la sitcom qui fait du bien. Il y a vraiment deux écoles et l'une est en train de remonter. Aujourd'hui, c'est plutôt Larry David qui revient à la mode.
Bah, il y en a encore des comédiens à la Friends. Bah, après, on les regarde plus parce que on est vieux. et maintenant, on a l'âge de préférer les Larry David d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de foncièrement hilarant dans Friends, là où souvent dans Seinfeld, t'avais l'impression qu'en plus il y avait quelque chose de la private joke. Enfin, t'avais vraiment l'impression qu'ils se faisaient des blagues entre eux et que soit t'en étais et c'était cool, soit t'en étais pas et tu te forces à rigoler en te disant, il y a un moment, je vais bien rigoler au bon moment parce que c'est obligé. Mais en vérité, on comprenait pas grand chose. Puis c'était il y a 70 000 ans à peu près, donc on était petits. Oui, peut-être que tu regarderais aujourd'hui avec l'éducation qu'on s'est faite, finalement, c'est ironique, par les héritiers de Larry David, mm-hmm. on serait beaucoup plus sensible parce que ça y est, on a compris cet humour-là assez plat, assez cynique.
Et le malaise ouais. On pourrait dire que Friends, c'est une série qui met profondément mal à l'aise. Quoi. Le truc qui te fout le plus mal à l'aise dans Friends, c'est quand il doit se pisser dessus quand il y a des méduses. Quoi.
Et donc, encore.
Même pas, voilà.
Non, mais donc, c'est le problème d'être un pionnier. Voilà, c'était les pionniers dans ce genre-là qui a mis 20 ans à exploser. Et c'était un peu brut, quoi.
Est-ce que le problème de ces séries-là et de toutes celles qui ont suivi, ce ne sont pas aussi des séries purement citadines ? C'est-à-dire que ce sont des séries qui incarnent un petit groupe de gens vaguement privilégiés quand même. Est-ce que, justement, elles ont encore voix aujourd'hui, ces séries-là, qui s'occupent, en gros, du quotidien névrosé de jeunes blancs hétéros à New York ?
C'est plus des petits groupes de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Louis tout seul, Marc Maron tout seul, Pamela Adlon dans Better Things
on
toute seule.
On parlait de Friends from College récemment, qui est plutôt dans cette catégorie-là, du groupe aisé new-yorkais, etc. Donc oui, ça existe encore, mais c'est vrai que c'est plus serré. Même You're the Worst, on critique parfois, ou Love, ce genre de série-là, où on va dire, oui, effectivement, c'est toujours les petites névroses du blanc de Los Angeles ou de New York. Ça existe encore, et on entend encore cette critique-là souvent.
Donc ça voudrait dire que Larry David, en tirant la ligne Seinfeld puis Curb Your Enthusiasm, a amené une forme de diversité avec d'autres personnages qui sont des personnages moins aisés, moins sympathiques, moins agréables à regarder aussi.
Alors moins aisés, je sais pas, hein, parce que Larry David de Curb, il a quand même quelques millions en banque, hein, c'est le même que le vrai. Donc,
Oui, mais quand on voit les autres personnages, on parlait Better Things, toutes ces choses comme ça.
Oui, effectivement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'anti-glamour qui apparaît avec ces comédies-là ?
Ah, moi je le trouve absolument hyper sexy, Larry David, on est d'accord, hein, non,
c'est des révélations ce soir, Pierre.
Ouais, je vais mon premier stand-up, hein, c'est bientôt ça.
Non, mais l'anti-glamour, oui, mais comme il y a, l'anti-glamour dans ce dans quoi on peut se reconnaître, dans ce dans quoi on nous accepte. Et on s'accepte nous-mêmes. Moi, j'ai aucun complexe et aucune tristesse à regarder Louis ou à regarder Better Things et à aller voir dans leur marasme et dans leurs problèmes, parce que j'ai les mêmes. Donc, au pire, super, enfin, on a le droit d'exister. Autant te dire que Friends, j'ai pas les cheveux comme ça, j'ai pas les fringues comme ça, machin, enfin, ça ne marche pas.
Il y a une forme de nouvelle représentativité avec ces séries-là ?
Oui, il y en a qui parlent un peu rapidement de trash, mais il y a une forme d'impudeur, de façon de montrer les choses frontalement, de plus avoir l'humour vient aussi, c'est ça qui est fort avec Curb, qui l'est toujours avec Louis et d'autres séries, c'est que l'humour vient beaucoup de ce moment où on reconnaît avoir la même souffrance que le personnage. Alors avec Curb, c'est poussé au maximum puisque c'est plus une souffrance, c'est carrément une détestation de l'autre. Mais dans Louis, il y a un peu de ça aussi, parce que c'est vrai que Louis est quand même beaucoup en train de se plaindre. Il a une vie de merde, c'est la merde, ça a pu. Mais il y a aussi de la compassion, quoi. Et l'humour naît de la compassion, c'est-à-dire qu'on ne rit que si on comprend ce que le type en face de nous est en train de nous raconter, même si c'est au-delà des mots. Et je fais une légère aparté, je décale légèrement l'émission, mais pour moi, il y a multiples traits de génie dans Louis. Mais il y a une scène que j'oublierai jamais, qui est cette scène où il va en Chine, je crois, et où il se retrouve dans une maison de Chinois qui parle pas un mot d'anglais, et ils sont tous morts de rire, et lui se met à rire, et tout le monde rigole, alors qu'il n'y a pas eu un seul mot qui a été échangé. Et si ça, c'est pas l'expression la plus forte et la plus belle et la plus émouvante, parce qu'encore une fois, ces séries, je trouve, ont en plus une émotion que n'ont pas les pures comédies sitcoms plus traditionnelles, c'est là une illustration magique, quoi, parce que finalement, la compassion passe par le rire et par le partage au-delà des mots, quoi.
Donc on rirait pas des personnages, on rirait avec eux, parce qu'au départ on peut avoir l'impression avec le malaise qu'on rit des personnages, on est un tout petit peu extérieur à ces situations-là,
les deux.
Et on les pointe du doigt en riant. On parlait de Ricky Gervais, et effectivement, il y a ça. Alors que pour vous, finalement, on est plus proche d'eux grâce à ça.
Mais Ricky Gervais, on a du mal à avoir de l'empathie pour lui.
Donc, ouais, c'est Ardos, hein, ouais.
Pour moi, c'est la première série de ce genre-là dont je suis devenue fan, et voilà, qui m'a fait comprendre que j'aimais l'embarras. aujourd'hui, par contre, je ne pourrais plus, en fait. Il me faut les deux côtés. Il me faut le côté mec bougon comme Louis, mais j'ai besoin de le voir pas bien sur son canapé. J'ai besoin de le voir se prendre une tôle par son amoureuse parce que il a mis 4000 ans à se décider, puis maintenant c'est trop tard, elle a plus envie. Aujourd'hui, on a vraiment réussi à trouver un équilibre qui fait qu'on est ni on les déteste, ni on les adore. On est vraiment dans un espèce de truc comme on est avec nos amis, quoi. Ils nous énervent, on les aime quand même. Ils sont trop joyeux. Des fois, on a envie de dire bon, c'est bon, tu nous saoules avec tes histoires là. Il se trouve qu'il y a une proximité qui n'existe que dans ces séries-là, que dans les Louis et que dans ces séries-là.
Est-ce qu'il y a une sincérité qui naît de l'autofiction, employons le mot-là, qui fait que même si ces types-là nous mentent parce qu'ils nous racontent une fausse réalité, on est convaincu qu'il y a une forme d'honnêteté dans ce qu'il nous raconte. Et il y en a une chez Larry David qui est dans l'improvisation. On peut pas. Il y a forcément un moment, un côté psychanalytique, il y a un truc bim qui va sortir et qui est forcément quelque chose de sincère de sa part.
Mais il y a aussi une forme de mise en scène. C'est-à-dire qu'ils viennent aussi pour la plupart de la scène du stand-up où on sait bien que dans le stand-up, on façonne un personnage et on joue sur je vous parle de moi, mais en fait, je est un autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi une forme de mise en scène? Est-ce que Louis, par exemple, il n'est pas coincé dans un personnage qui n'est peut-être pas lui, en fait?
Bah d'ailleurs, il a carrément envie de l'abandonner. Ce personnage, il s'en est beaucoup servi. Mais si tu suis les saisons de Louis au début, enfin, moi, je me souviens, la saison 1, je me disais, c'est une super comédie. Et puis, saison 3, saison 4, en fait, tu fais que chialer, quoi. C'est son père, ça va pas. L'épisode avec la Russe, là, qui finit sur un toit d'immeuble, où t'es juste, t'en peux plus, t'en as ta quatrième boîte de mouchoirs. Enfin, il y a un équilibre qui s'est trouvé. Alors, oui, il faut de la mise en scène. On est quand même en train de raconter une histoire et on est quand même en train, entre guillemets, sans vraiment, c'est pas un gros mot, de divertir les gens et de leur raconter quelque chose. Donc, c'est la réalité avec la référence Spinal Tap, poussée jusqu'à 11. C'est curseur
que,
de plus.
C'est vrai que là où Curb est quand même essentiellement une comédie, la descendance de Curb, alors c'est aussi lié au statut moderne de la série télé, de la comédie moderne qui glisse de plus en plus vers ce qu'on appelle vulgairement la dramédie, la comédie dramatique.
Oui, qui est un terme problématique.
Tu adores ce
mot. Je déteste ça.
Voilà, la comédie dramatique, disons les choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs dans le début de la dernière saison d'épisode, qui est une forme d'autofiction, puisque Matt LeBlanc, comme ils disent, joue Matt LeBlanc. Il y a un scénariste qui dit qu'ils font une comédie, et le gars dit « Ouais, mais non, mais t'es nul, aujourd'hui c'est très bien, les comédies, c'est plus la peine que ça fasse rire. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de comédies, c'est plus la peine qu'elles fassent rire. Alors c'est une erreur, il faut quand même qu'elles fassent rire un peu, mais Louis C.K. peut se permettre, pendant un épisode, voire une saison entière, de décider qu'il a plus envie de nous faire rire, et que la sincérité de son personnage... que son personnage soit lui-même ou un double de lui-même, c'est le principe même de l'existence, hein, si je puis me permettre. Nous sommes tous le double de nous-mêmes, n'est-ce pas ?
Non, mais capillaire, philosophe.
Fait que finalement on l'accepte. Et oui. On va faire ce voyage avec lui.
Mais il n'y a pas une forme d'impudeur quand même chez ces gens-là ? C'est-à-dire que est-ce que finalement on n'est pas dans des séries qui dévoilent des choses et qui, pour justement continuer à alimenter le sel de la comédie, sont obligés d'aller de plus en plus loin dans une forme de malaise, de révélation, de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans une forme d'intellectualisation de ces trash TV qu'on avait, les Jerry Springer Show, des gens qui racontent des choses qu'on n'avait pas envie de voir?
Moi, je suis pas sûre que tu puisses être artiste et pudique. Honnêtement, je pense que c'est antinomique et qu'il y a un moment, mais tu vois, quand je commence à réfléchir à cette émission, je pense à Lena Dunham. Quelque part, c'est une forme d'autofiction,
bien sûr,
puisque son personnage est écrivain, comme elle. Il pense qu'elle est supérieure à la Terre entière, comme elle. Et tout ce qu'on a reproché à Lena Dunham jusqu'à présent, c'était justement son manque de pudeur, mais c'est parce qu'elle est pas pudique qu'elle a fait la série qu'elle a faite. Alors, il y a eu des erreurs de fait, mais il y a un moment, faut oser. Tu peux pas garder en toi et faire semblant que tu vas te raconter. C'est juste pas possible.
Mais est-ce que justement cette impudeur-là a mis une barrière à avoir des séries féminines, purement féminines, avec cette forme-là? Est-ce que pendant longtemps on n'a pas eu cette barrière-là? Parce que c'était pas.
Il y en a des moins connus. Il y a One Mississippi par exemple sur Amazon. Oui, alors là pour le coup, Charlotte, tu fais genre les boules parce que c'est dur, mais c'est une comédie.
Donc c'est la série
dramatique. De Tig Notaro,
ça, sur le cancer,
qui raconte non seulement au début la mort de sa mère, mais elle aussi son rétablissement du cancer, puisqu'elle elle s'est fait enlever les deux seins par un cancer du sein. Donc il y a quelque chose de très dur là-dedans, mais on est aussi dans la comédie. Et alors là, parlons de manque de pudeur. En fait, elle se livre complètement et c'est bouleversant.
Bien sûr.
Pas une comédie. Hein.
Oui, mais
non, mais là, c'est pas une comédie. Enfin, tu vois, il y a un moment. En fait, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où on met les séries dans des cases par rapport à leur format, en fait.
26 minutes.
Ça fait 26 minutes, allez hop, c'est une comédie. Alors, je veux bien qu'il y ait une espèce d'équilibre à avoir, toujours en utilisant ton mot préféré, la dramédie. Enfin, un espèce d'équilibre entre comédie et drame, mais il n'y a pas d'équilibre entre comédie et drame.
Par appeler ça, d'ailleurs, elle passe d'une catégorie à l'autre en permanence dans les remises de prix, quoi.
Oui, mais ça, c'est suivant la concurrence et c'est pour qu'elle puisse gagner aussi. Mais, ça,
mais si on revient sur ce sujet féminin, est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on a cette libération-là, notamment la série de Pamela Adlon, Better Things, on avait quand même pendant très longtemps, c'était un genre de série qui était quand même occupé, dont la place était majoritairement occupée par des hommes. Aujourd'hui, on donne la parole aux femmes sur ces sujets-là.
Mais parce que dans toutes les séries et dans tous les films, je mets ma casquette féministe, on n'a pas arrêté de nous faire croire qu'un personnage féminin en premier plan n'intéressait personne. C'est tout est lent, voilà, c'est lent, on met 1000 ans à donner. Aux femmes, la même place qu'on donne à un homme. Et dans la comédie, c'est encore pire. On en a encore un moment où on dit « Vous êtes drôlement marrante pour une femme ». Non, mais sans déconner, quoi.
Oui, alors... c'est vrai que t'es drôlement marrante.
Tiens, j'avais pas pensé à Sortie Rock, mais dans le genre autofiction, c'est quand même, il y a une très distanciée. Mais bon, on peut la mettre dedans. Et Tina Fey, voilà.
Mais là, c'est carrément une farce. Oui, là, on est plus dans la satire et dans la transformation.
Mais c'est simplement pour dire les choses que je pense que la télé américaine, si libérale soit-elle, etc., considère encore que montrer un mec qui proute, bah, c'est cool, mais une femme qui proute, bah, non, les femmes, ça proute pas une femme. Enfin, en gros, qu'il y a l'impudeur dont tu parlais.
C'est une barrière psychologique.
C'est encore une barrière, c'est-à-dire que là où on laisse faire des trucs dégueulasses à Louis dans Louis C.K., on n'oserait pas encore laisser une femme être aussi trash, et je mets 14 guillemets parce que je déteste ce mot-là, mais je pense qu'il y a encore une forme de politiquement correct qui doucement se fait dépasser et casser. C'est vrai que Better Things, c'est quand même une série qui, si elle ose pas mal de choses, à une tendresse immédiate qu'il n'y a pas forcément Louis, quoi. Mais ça pourrait être une forme de spin-off. D'ailleurs, c'est coproduit par Louis C.K. et tout, donc il y a un lien très étroit. Mais oui, il y a un chemin à parcourir encore à ce niveau-là.
Est-ce qu'il y a trop d'ego parfois dans ces séries? Je pense notamment, on a beaucoup reproché à Masters of None saison 2 d'Aziz Ansari. Les détracteurs de la série disent, bah, finalement, il parle que de lui. C'est vraiment moi. Oui, mais justement, c'est le but. Mais pourquoi on peut avoir ce reproche-là qu'à un moment, ce type de série-là, on vire à la série égocentrique? Est-ce que, pour le coup, ça vous parle, ça?
Ouais, c'est ce que j'attends, hein. Une autofiction, j'ai envie que ça soit égocentrique. Et après, libre à moi de m'identifier et tout au mec.
Mais, Charlotte, tu faisais la grimace.
Ouais, je fais la grimace parce qu'en fait, Master of None, bon, pour moi, il y a deux énormes problèmes. Et c'est horrible parce que j'ai adoré la saison 1 et la saison 2, je n'arrive même pas à la finir tellement je la déteste, tellement je n'en peux plus.
Je considère que c'est un chef-d'œuvre, mais on en reparlera.
Mais il n'y a pas de souci. Un, je trouve que Aziz Ansari, c'est un des pires comédiens de la Terre entière.
Nous parlerons de ça également.
Très bien. Charlotte. Non, ses scènes sont horribles. En plus, il est entouré de gens qui jouent hyper bien. Donc, c'est. Tu vois, j'ai regardé l'épisode Thanksgiving et je me suis dit.
Dans lequel il est quasiment pas.
Il est quasiment pas, mais au début, donc c'est un épisode qui va dans le passé, donc il a un comédien qui le joue lui enfant, et je me suis dit, pourvu qu'il ne joue pas face à Angela Bassett, parce que là, c'est la fin du monde. C'est la honte jusqu'à la fin de ses jours. Bon, ce mec s'est pas joué. Et moi, ce qui me dérange dans Master of None, c'est que sous couvert d'une série qui parle de son époque et qui parle de l'entourage d'Aziz Ansari, en fait, ça parle que d'Aziz Ansari, et il n'a pas réussi à faire une bande d'amis où on est plus ou moins pas au même niveau, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une tête d'affiche, mais c'est vraiment ses potes lui servent d'alibi, en fait, quoi. Et ça me dérange
vachement.
Et pourtant,
ça ne te dérange pas chez Louis, par exemple?
Non, la série s'appelle Louis. Et
donc, ça aurait pu s'appeler Master of Ansari, ça t'aurait plu?
Non, parce qu'en fait, on m'a vendu Master of None depuis le début comme une représentation de la pseudo-jeunesse d'aujourd'hui, bon, notre jeunesse à nous, hein, des jeunes vieux, quoi, en fait, comment vous t'as dit d'ailleurs,
t'as un problème avec la vieillesse, hein, si je puis me permettre. J'ai un problème avec la perte de cheveux, mais tu as un problème avec notre âge. Moi, je suis jeune
lucide.
Et pas
un pan. Je suis lucide. Non, mais
j'ai pas le même âge que vous, hein, mais bon.
C'est dégueulasse. Je n'aime pas qu'on me vende un truc de bande ou un truc représentatif d'une génération qui, en fait, est un truc représentatif d'un mec. Et de temps en temps, il laisse la parole à quelqu'un d'autre. Me dérange.
C'est pas
Louis, c'est assumé, c'est l'histoire de Louis. Voilà.
Donc des égocentriques plus directs, ça te plaît?
Parce qu'on me l'a vendu comme ça. Après, c'est est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, c'est ma décision. Mais Master of None, on m'a trahi. Et en plus, je trouve que la saison 2 est encore plus auto-centrée que la saison 1. Et ne parlons pas de ces horribles épisodes en Italie, là, parce que je pense que je vais casser la table.
Question qui va poser un problème. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça en France?
Bon, on a essayé.
Bah oui, mais pourquoi on n'est pas capable?
Oui, bah, Platane, c'était pas honteux, mais Alors déjà, ça fait pas partie de notre culture, je pense, ce genre d'histoire-là, mais je n'irai pas trop loin là-dedans, parce que c'est pas comme si ma connaissance du cinéma depuis les années 40 était complète. Il y a des films que j'ai pas vus de 43, en fait, donc ça me pose un problème.
Parce qu'évidemment, c'est la première référence.
Éric Judor, donc, hein, pour le rappeler, et son quotidien. Bon, déjà, il y a un problème, et en même temps que je te réponds, je suis en train de réfléchir à Louis, où il y a quelques guests un peu connus quand même. Déjà, on a ce problème-là en France, c'est que quand on veut faire venir des invités de marque, on a vite fait le tour des gens un peu connus, un peu sympas, et qui nous font marrer. Ça ressemble aux enfoirés assez rapidement.
Oui, c'est ça, le 14e caméo de Marion Cotillard, on n'en peut plus. Ouais.
Voilà. Peut-être qu'on va pas assez loin, qu'on n'est pas capable de se faire mal, pour en revenir à Curb, autant que Larry David. Et que, en France, on veut quand même, à la fin, et de ce dont je me souviens de Platane, c'était un peu le cas, on veut quand même à la fin que le mec, il ait l'air un peu sympa, un peu paumé, c'est pas trop de sa faute.
Pourtant, Éric Judor a essayé de pousser encore plus le malaise, il le raconte que ses scénarios au départ étaient beaucoup plus cruels et que Canal Plus a un peu réduit la voilure. Charlotte, je sais que tu ne veux pas voir Platane.
Non, en fait, j'ai pas envie de voir Platane. En fait, c'est drôle parce que j'ai aucun problème à me mettre dans le quotidien de quelqu'un que je connais pas, très loin de moi. Autant j'ai pas du tout envie de mettre dans le quotidien d'un comédien que j'ai déjà dans ma vie depuis des années. C'est-à-dire que il ne m'a jamais intéressé, il va pas commencer à m'intéresser maintenant parce qu'il a une série. Louis, moi j'avais jamais entendu parler de Louis avant de regarder et du coup c'est un inconnu. J'ai regardé, j'ai trouvé ça cool, je suis restée. Éric Judor, je sais qui c'est, je m'en fous en fait maintenant qu'il se mette en scène dans une autofiction. Et en plus, j'ai des préjugés là-dessus et c'est certainement pour ça que j'ai fait un énorme blocage et que j'ai pas voulu les regarder, c'est que on sait, on rencontre assez d'acteurs dans le sens d'artisans et de créateurs français pour savoir qu'à chaque fois qu'ils essayent d'aller un peu loin, on leur dit recule un peu quand même parce qu'on sait jamais, je sais pas quoi, machin. Et en plus de savoir que ce qu'il a fait, c'est pas ce qu'il voulait faire.
C'est-à-dire c'est pas exactement ce qu'il faut.
Qu'il a pas été jusqu'où il voulait aller. C'est-à-dire que quelque part, c'est horrible. T'es influencé par des gens, tu admires des gens, tu vas admirer Jerry Seinfeld, tu vas admirer Larry David, t'as envie de faire ton Larry David français, et on te laisse pas le faire, on te fait faire un truc mi-figue, mi-raisin, et puis en plus, ça tombe sur ta gueule parce que, c'est toi qui porte le projet. Moi, ça m'a mis mal à l'aise, en fait.
Il y a peut-être une forme de snobisme aussi. Alors, c'est vrai que, je pense à ce qu'a fait Franck Dubos sur M6, là,
les beaux malaises.
Alors, je connais pas la version québécoise, qui visiblement va beaucoup plus loin. Où c'est vrai que il y a des scènes où on fait oh putain ils vont pas oser et puis ils osent et puis derrière quand même hop ils font une galipette et en fait il est sympa quand même Franck Dubosc et ça pour moi ça annihile complètement la tentative qui est pourtant courageuse. Après il y a sans doute une forme de snobisme qui fait que moi je me rappelle dans Platane je me rappellerai toujours il y a une blague sur Alain de Greff à un moment. Je disais, mais le public, c'est pas, on se fout. Enfin, le public, c'est pas qui est Alain de Greff. C'est un truc complètement nombriliste. Et il y a eu des séries comme ça sur OCS aussi, où c'était des mecs qui c'est des auto-blagues sur leurs meilleurs potes que tu connais pas, ou que, en toi, tu connais, parce que t'es journaliste spécialiste des séries. Mais le public ne connaît pas. Là où c'est sûr que c'est beaucoup plus facile aux États-Unis quand ils font venir Ted Danson, ou à des puissances 1000, encore des grosses vedettes, où il y a un côté vachement plus sexy, vachement plus drôle, parce qu'on dit, ah, dis donc, le gars, c'est une star, il se tourne en direction. Donc, il y a une forme de snobisme, sans doute. Mais ça fait pas tout le problème.
Et on vous conseille vraiment de découvrir Les Beaux Malaises, qui est disponible sur Netflix, la série de Martin Matt, version québécoise, qui est vraiment, pour le coup, une sorte de dérivée de Curb Your Enthusiasm, avec l'accent québécois en plus, et c'est souvent très très drôle. Tu voulais rajouter quelque chose, Charlotte ?
Non, j'étais en train de me dire que c'était aussi dans l'éducation, c'est-à-dire que le public américain qui a grandi avec des SNL, qui est habitué à des gens qui se mettent... qui sont ironiques sur eux-mêmes, des gens qui se mettent en danger, dans des sketchs ou... Ils ont l'habitude, les Américains et le public français. Tu vois, j'étais en train de me dire, Éric Judor, bon, même Canal+, c'est pas tant de leur faute qu'en fait, on sait pas éduquer le public. On n'a jamais été foutu d'éduquer le public français à regarder Larry et son nombril. Et nous, l'amour fou qu'on peut avoir pour Louis, on n'est pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on n'est vraiment pas beaucoup.
On va deux Olympias.
Non, un Olympia et demi, j'étais aux deux, moi. Donc, je peux dire que le deuxième était... on était un tiers,
oui,
à tout péter.
La salle était remplie en bonne partie de gens, justement, qui connaissent cette culture-là et de la moitié des potes de Gad Elmaleh.
Ouais.
Donc, voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est une histoire de culture. Aujourd'hui, tu vois, je pense à 10%, il y a quand même certains guests qui se sont mis dans des situations improbables. Bah pour moi, ils ont pris un risque, vraiment, quoi, parce qu'on n'est pas encore dans une éducation du public où ils arrivent à pardonner, où ils arrivent à se détacher des rôles qu'ils regardent, etc. Et je trouve ça hyper dommage. Moi, j'adorerais que tout le monde regarde Larry et son nombril et Louis et qu'on ait des vrais trucs comme ça. Mais même nous, quand on essaye de faire un SNL, on n'y arrive pas, tu vois, un soir par an.
Ne réveillons pas ce désastre. Voilà, c'est tout pour un épisode et j'arrête consacré à Larry David et la nouvelle comédie américaine. Merci à l'excellente Charlotte Bloom, au génial Pierre Langlais. Merci également à l'impayable Jules Cros pour la régie et au public merveilleux de l'antenne ici présent. C'était Renan Cros de Cinématiseur et vous retrouverez à ce même micro Pierre la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un épisode et j'arrête. D'ici là, bonne série à tous.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.